Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, la Russie qui pourrait rouvrir son ambassade à Ouagadougou, la diffusion de France 24 suspendue au Burkina Faso, la Tanzanie et l'Inde passeront aux devises locales pour commercer, la Finlande qui lâche du lest sur les engrais russes et la maison russe à Bangui qui a organisé une fête pour les orphelins. La croissance des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique pourrait passer par la création d'une banque conjointe. Des experts burkinabés et centrafricains donneront leur point de vue sur ce projet. La Grande-Bretagne souhaite livrer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine. Deux experts militaires russes et burkinabés décrypteront la stratégie occidentale derrière ces approvisionnements dangereux. Un joueur de football russe a porté les couleurs d'un club rwandais. Pour Spoutnik Afrique, il est revenu sur son expérience et a mis en avant les qualités du football africain. La coopération entre la Russie et le Burkina pourrait prochainement passer un nouveau cap. Alexei Saltykov, l'ambassadeur russe en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, a déclaré que la réouverture d'une ambassade à Ouagadougou était dans les cartons. C'est la mission diplomatique russe à Abidjan qui s'occupe des relations russo-burkinabé depuis la fermeture de l'ambassade au Burkina en 1992. Pour M. Saltykov, il y a des raisons sérieuses de la rouvrir car cela est conforme à l'orientation stratégique de la Russie vers le développement des relations avec les pays du continent. Pour rappel, Moscou soutient Ouagadougou dans divers secteurs. Dans le domaine de l'alimentation, l'entreprise russe Uralchem, fabricant d'engrais, souhaite livrer ses produits au Burkina Faso. Sur le plan éducatif, la coopération universitaire progresse. M. Saltykov s'est félicité du grand intérêt des Burkinabés pour les études en Russie et l'augmentation des bourses à ses fins. Enfin, sur le plan militaire, le partenariat russo-burkinabé prend en compte tous les souhaits exprimés par le Burkina Faso. Il se matérialise par l'amélioration des capacités de combat de leurs forces armées. Un nouveau pays africain a décidé de se débarrasser du dollar. Le haut-commissaire de l'Inde en Tanzanie, Binya Pradhan, a annoncé que les deux pays ont convenu de régler leurs échanges commerciaux en monnaie nationale dans le cadre d'un accord bilatéral entre les deux parties. Pour le diplomate indien, l'abandon du billet vert stimulera le commerce entre la Tanzanie et l'Inde. Pour la Tanzanie, cet accord est une aubaine. New Delhi est le troisième partenaire commercial dans ce pays africain et un des principaux investisseurs avec 3,7 milliards de dollars injectés dans l'économie locale. M. Pradhan a déclaré que la Bank of Baroda a déjà commencé à mettre en œuvre cet accord, aussi bien en Inde qu'en Tanzanie. Dodoma exporte à New Delhi de l'or, des noix de cajou, des légumineuses, du bois, des clous de girofle, des pierres précieuses, tandis que l'Inde fournit à ce pays africain des produits pétroliers, pharmaceutiques et chimiques, des véhicules à moteur, des appareils électriques, du sucre et des machines. La Finlande a choisi d'écouter la voix de la raison. Helsinki a fait une exception en autorisant une cargaison de produits russes à quitter l'un de ses ports. Bloquées en raison des sanctions anti-russes européennes, les marchandises ont finalement été autorisées à poursuivre leur voyage car elles sont expédiées dans un pays tiers qui n'a pas été désigné pour promouvoir la sécurité alimentaire. La diplomatie finlandaise a indiqué que les restrictions de l'UE n'empêchaient pas l'importation d'engrais russes ou leur transit par un pays membre de l'Union, à l'exception des produits à base de potasse. Pour rappel, des milliers de tonnes de fertilisants russes restent bloqués dans les ports européens, notamment dans ceux situés dans les pays baltes. En automne dernier, Moscou avait proposé d'offrir gracieusement ses produits agricoles coincés en Europe aux pays les plus pauvres. Toutefois, leur déblocage se fait au compte-gouttes. Récemment, le Malawi a reçu des engrais russes qui étaient bloqués aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont décidé de laisser sortir les marchandises russes seulement après avoir obtenu des garanties de la part de l'ONU. La maison russe de Bangui poursuit son travail 3 mois après la tentative d'assassinat sur son directeur Dmitri Siti. Récemment, un événement destiné aux orphelins centrafricains est organisé. Les enfants ont assisté aux jeux organisés par le personnel de l'institution et regardé des dessins animés russes. Des cadeaux leur ont ensuite été remis. Thierry Divine Malekamba, l'enseignant qui accompagnait les petits, a déclaré que cette fête ne les a pas laissés indifférents, tout comme les adultes présents. Pour rappel, la maison russe de Bangui organise régulièrement des actions qui renforcent les liens culturels entre la Russie et la RCA. En janvier dernier, plusieurs scouts ont visité la maison russe pour se rapprocher de la culture et de l'histoire de la Russie. Fin 2022, L'ambassade de Russie en RCA a installé un arbre de Noël à Bangui et les élèves de l'école orthodoxe locale ont assisté à la cérémonie. Enfin, des cours de russe gratuits sont dispensés au centre culturel pour les centrafricains. Écran noir pour France 24 au Burkina Faso. Les autorités de la transition burkinabé ont pris la décision de suspendre la diffusion de la chaîne française sur son territoire. Cela fait suite à une interview prise par la chaîne d'information du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, organisation qui est interdite en Russie. Dans un communiqué, Ouagadougou se désole de voir que le chef d'un groupe terroriste reconnu comme tel par la communauté internationale puisse bénéficier des largesses éditoriales de la chaîne pour pouvoir s'y exprimer longuement. C'est pourquoi le gouvernement burkinabé a décidé en toute responsabilité et au nom de l'intérêt supérieur de la nation de couper le faisceau de diffusion de France 24. Ce n'est pas la première fois que la diffusion d'un média français est suspendue dans le pays. Pour rappel, fin 2022, Radio France Internationale a connu le même sort. Chers auditeurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La croissance des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique pourrait passer par la création d'une banque commune. Le président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, avait déclaré à notre micro dans une émission précédente être en faveur de ce projet. Auparavant, l'Iran a annoncé vouloir créer également un établissement bancaire pour booster ses échanges avec le continent africain. Aujourd'hui, deux experts vont décrypter le développement des liens financiers entre l'Afrique et la Russie qui se met en place. Je vous présente le professeur Hamidou Sawadogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kis Zerbo au Burkina Faso, macroéconomiste, et le docteur Loïc Molambo Sambi, économiste du développement et enseignant-chercheur centrafricain. Écoutons-les. Professeur Hamidou Sawadogo, je vais commencer avec vous. Récemment, au micro de Spoutnik Afrique, le président du Parlement de la transition du Burkina Faso, Ousmane Bougouma, a plaidé pour la création d'une banque commune entre la Russie et l'Afrique. Comment évaluez-vous cette initiative ?
Je pense que, honnêtement, c'est une excellente nouvelle que le président du Parlement burkinabé, Dr Ousmane Bougouma, ait plaidé pour la création d'une banque commune entre la Russie et le Burkina Faso. En fait, je pense que le docteur Ousmane Bougouma souhaite qu'une banque russe s'implante au Burkina Faso. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que déjà, en termes d'apport de capital, cette banque-là va beaucoup apporter. Et en termes d'investissement, en termes de procédure, en termes de gestion, il y a même un enseignement que la banque va apporter dans nos relations internationales et par rapport à la fluidité des échanges. Je parle essentiellement des échanges internationaux entre le Burkina Faso, la Russie et la Chine. Et donc, je pense quand même que si ça arrive, c'est un partenaire de plus et c'est un partenaire important, assez important, surtout dans les domaines économiques et financiers. De mon point de vue, en tant que scientifique, je pense que c'est une très bonne chose que la Russie investisse en Afrique et apporte une nouvelle banque qui pourra s'installer en Afrique. On a déjà vécu au Burkina l'expérience avec BCB de la Libye et BCB est encore là et c'est une banque suffisamment viable avec une bonne rentabilité, une bonne façon de gérer la banque. Et je pense que si la Russie aussi s'implante au Burkina à travers une banque, c'est un plus que le Burkina gagne. Et que la Russie aussi gagne parce que les relations bilatérales entre les deux pays vont se renforcer. Et en termes de commerce international, il y aura encore plus un renforcement des relations en termes de commerce international entre la Russie et le Burkina.
Docteur Loïc Molambo, le professeur Hamidou Sawadogo vient de nous dire qu'il est très enthousiaste sur le projet de cette banque russo-burkinabé. Et vous, quelle est votre opinion ?
En ce qui concerne la banque, la définition de la banque, c'est d'abord une institution financière qui fournit des services bancaires, soit des dépôts de crédit et le paiement. Et la banque a pour rôle essentiel dans la stabilité et le fonctionnement du système financier et sont en général soumises à une importance supérieure prudentielle de la part de l'État. Cependant, vu la situation économique et sociale des pays africains et la volonté de ces pays à diversifier leurs partenariats économiques pour ne pas dépendre seulement d'un seul système qui est le système de Bretton Woods, la création de cette banque commune sera plus avantageux pour les pays africains qui aspirent à des relations commerciales équitables et un partenariat gagnant-gagnant.
Professeur Sawadogo, pouvez-vous expliquer pour nos auditeurs le fonctionnement et les avantages de la création d'une banque ?
Les avantages, notamment, que le Burkina tire d'une implantation d'une banque russe. Premièrement, vous avez l'apport en capital. Puisque quand une banque s'implante dans un pays, il y a déjà l'investissement direct lié à l'implantation de la banque qui va créer des revenus, des profits, des emplois pour les Burkinabés, puisque même si il y a des Russes qui vont venir travailler dans cette banque-là, généralement les Russes vont occuper les places de techniciens. Voilà, ils peuvent être le directeur de crédit peut être russe, le chargé des affaires internationales peut être russe, le chargé des moyens de paiement internationaux peut être russe. Mais pour ce que nous voyons au Burkina, la plupart du temps, même si le directeur général est russe, dans le temps, il va céder son fauteuil à un Burkinabé. Ça, c'est ce qu'on voit de coutume. Et ensuite, le personnel de soutien, certaines personnes qui sont vues comme étant des techniciens de la banque, mais pas de spécialité russe là, seront recrutées et ça va donner beaucoup plus de l'emploi déjà au Burkina Faso. Ça, c'est côté emploi. Côté investissement, la banque va acheter beaucoup de biens d'investissement ailleurs, mais aussi au Burkina. Il y a tout ce qui tourne autour de l'investissement comme siège, comme acquisition des agences et tout. Et ça, ça va créer des revenus, ça va créer de la richesse déjà pour le Burkina. Maintenant, côté transactions financières, bon, les transactions entre la Russie et la France, et sur la, les transactions entre le Burkina Faso et la Russie vont connaître une amélioration. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a plusieurs transactions actuellement que si le Burkina ou les pays d'Afrique francophone veulent faire ça, ils sont obligés de virer l'argent d'abord dans une banque française et c'est à partir de cette banque française que l'argent pourrait être viré là où ils le souhaitent. Mais à travers ça, il peut y avoir des mécanismes de blocage, des mécanismes de gel d'avoir, des mécanismes des obstructions, des transferts et tout ce qui s'ensuit. Et donc, si la Russie a une banque directement implantée au Burkina, je pense que c'est un plus. Parce que désormais, le Burkina peut mettre ses ressources pour paiement à des opérateurs économiques russes directement au Burkina, n'a plus besoin de se déplacer, n'a plus besoin de faire des transferts, puisque ces opérateurs russes là peuvent ouvrir leur compte immédiatement dans la banque qui est logée au Burkina. Et ça, c'est un plus. Je ne trahis aucun secret quand j'ai dit, par exemple, que pour une certaine transaction avec la Russie récemment, l'État burkinabé était obligé de demander la caution de AIB Bank, qui est une banque nationale, mais gérée essentiellement par des actionnaires burkinabés très connus, qui pouvaient faire gage de foi et de crédibilité pour que l'argent puisse être payé à la Russie, parce que la Russie ne souhaite pas que les transactions à destination de la Russie passent essentiellement par certains pays européens dont je ne citerai pas le nom. Donc, du coup, une banque qui est russe installée au Burkina, ça va faciliter beaucoup les transactions, notamment en matière d'armement, même en matière d'autres formes d'investissement et en matière de création, de paiement de la dette. Moi, je pense que et je ne trahis encore aucun secret en disant que la Russie est un pays qui est quand même relativement riche. Et donc, qui peut aussi investir, en tout cas, en Afrique, pour faire de bonnes choses pour les Africains, mais tirer beaucoup plus avantage de notre économie. Et donc, je pense que ça peut être une coopération bilatérale, mutuellement avantagée entre le Burkina Faso et la Russie. Bon, c'est pas un secret encore de dire que notre monnaie n'est pas convoitée à l'étranger. Et comme le franc CFA n'est pas convoité à l'étranger, les paiements à l'international se font soit en dollars, soit en yuan de la Chine, soit en roupies, ou soit essentiellement au yen japonais ou au dollar américain et l'euro de l'Union européenne. Donc, par conséquent, comme nous ne pouvons pas utiliser notre franc CFA dans les paiements internationaux, si la Russie s'implante ici, nous allons avoir essentiellement des devises russes qui vont peut-être nous permettre de pouvoir régler, en tout cas, ne serait-ce que les transactions que nous aurons avec la Russie. Et il y aura un mécanisme de convertibilité de notre, probablement, de notre franc CFA en cette monnaie, et qui va nous permettre de régler beaucoup de transactions. Et un étranger russe qui voulait venir au Burkina, il n'a pas besoin de convertir sa monnaie là-bas et acquérir des dollars ou des euros avant de venir au Burkina. Il peut tout simplement arriver au Burkina, retirer son argent dans la banque qui serait créée ici, il fait ses transactions et il repart tranquillement. Et de même, un opérateur économique du Burkina qui souhaiterait aller en Russie pour faire des transactions, il n'a plus à s'en faire. Il suffit seulement de faire un virement dans cette banque et vous voyagez tranquillement, arrivez en Russie, vous faites des retraits et vous faites des dépenses que vous souhaitez et puis vous rentrez tranquillement. Vraiment, ça va faciliter beaucoup de choses et je pense que c'est un plus. Et je ne voulais pas prendre parti, mais je souhaiterais que de telles choses arrivent au Burkina Faso parce que ça va élargir non seulement notre gamme de partenaires et ça va faire en sorte que il y a plus d'autonomie, plus de flexibilité pour le Burkina Faso et pour les pays africains de façon générale.
Docteur Malambo, M. Sawadogo vient de nous parler de manière très détaillée du fonctionnement d'une banque. Pouvez-vous résumer brièvement pour ceux qui nous écoutent le fonctionnement et les avantages que cette banque apportera au Burkinabé ?
Je peux vous assurer que cette banque peut fonctionner sur des principes traditionnels d'une banque, c'est-à-dire elle a pour rôle principal de collecter les épargnes, accorder des prêts et mettre à disposition des pays membres des moyens de paiement qui faciliteront les échanges commerciaux au niveau international. Ensuite, l'avantage est que si cette banque est bien encadrée, elle devient un puissant levier de développement économique car elle permet de, premièrement, faciliter les investissements russes dans les grandes infrastructures et les projets de développement en Afrique. Deuxièmement, elle permet d'amplifier les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique. Maintenant, troisièmement, elle permet de s'affranchir de la Banque mondiale, des réserves d'échange du Fonds monétaire international, de l'hégémonie du dollar et accessoirement transformer leur force économique croissante en influence diplomatique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, le troisième point, si cette banque arrive à bien fonctionner, elle permet de se départir ou bien de se séparer de dollars et elle permet aussi de constituer une force économique croissante qui permet d'influencer sur la question diplomatique au niveau international.
Monsieur le Malombo, je voudrais évoquer avec vous le système SWIFT. Les pays africains sont très dépendants du système SWIFT. Faut-il s'attendre à une connexion des pays africains aux autres systèmes de paiement, par exemple celui élaboré et proposé par la Russie et sa banque centrale ?
À cette question, je vous dis oui. D'abord, le réseau SWIFT a pour mission d'offrir à ses membres un réseau de communication et de traitement des transactions financières et commerciales internationales à l'échelle mondiale, c'est-à-dire transit des ordres d'achat et de vente des valeurs mobilières, confirmation d'exécution des transactions, instruction de règlement, livraison des transferts de fonds et des ordres de paiement, etc. Alors, effectivement, on peut s'attendre à une connexion des pays africains aux autres systèmes de paiement si ces systèmes de paiement permettent de faciliter et de sécuriser le développement commercial à l'échelle mondiale, notamment si elles peuvent fournir les mêmes services que fournissent le système SWIFT. Pour cela, récemment, pour contourner la plateforme de paiement internationaux qui est le SWIFT, en mars, la Russie avait annoncé le développement d'une solution de réchange basée sur le blockchain. Un projet qui a été jugé tout à fait crédible. Ensuite, après avoir annoncé ça, même la RCA qui est mon pays, envisageait aussi la même stratégie pour faciliter les investissements dans notre pays. Mais malheureusement, notre projet s'est buté à la réglementation de la Banque des États de l'Afrique centrale qui considère le franc CFA comme l'unique moyen d'échange pour les pays membres de de communauté économique et monétaire dont appartient la RCA. C'est-à-dire le fait déjà de la RCA, la difficulté de la RCA, déjà le fait pour elle d'appartenir à une monnaie commune qui est le franc CFA. Et donc cette monnaie est réglementée par certaines dispositions qui est surveillée par la Banque centrale et dont la valeur de la monnaie au plan international arrimée sur l'euro sera difficile pour la RCA d'imposer un autre moyen de paiement au niveau de l'autre là, au niveau national. Mais par contre, si la RCA arrive à avoir sa propre monnaie et décide d'utiliser le blockchain à partir des mois où sort du franc CFA, peut facilement utiliser un autre moyen de transaction commerciale avec les autres pays. Donc voilà, c'est possible que les pays africains puissent être connectés aux autres systèmes de paiement s'il y a la volonté de ces pays à accéder à procéder à ce principe.
Monsieur Sawadogo, le docteur Malombo vient de nous dire qu'il faut s'attendre à une connexion des pays africains aux autres systèmes de paiement. Pensez-vous que l'adoption de systèmes autres que le SWIFT posera un problème aux banques burkinabées?
Je pense que quant au système SWIFT, il n'y a pas de souci. Hein. Le système SWIFT va démarrer au Burkina Faso avec les filiales des banques européennes, banques américaines ou des banques créées par des locaux au Burkina. Mais un autre système de plus ne gênerait pas le système bancaire burkinabé. Et je pense que s'il y a une banque américaine qui souhaite s'installer au Burkina, cette banque américaine va demander la connexion avec le système SWIFT. S'il y a une banque française aussi, ça sera pareil. Mais si une banque russe aussi veut s'installer au Burkina Faso, la banque russe va donner ses conditions et il va implémenter son système qui soit en adéquation avec le système russe. Et cela ne pose pas vraiment de problème. Je pense que les deux systèmes peuvent bien cohabiter. Maintenant, on peut arriver à une situation où, dans le cas du système bancaire, un des partenaires veut qu'on n'utilise que son système, mais je pense que le Burkina est souverain et c'est au pays de savoir faire des choix et d'imposer ses règles à ses partenaires ou du moins de négocier des accords de convention avec ses partenaires, des accords gagnant-gagnant, je pense.
Professeur, si vous voulez bien, passons maintenant aux monnaies nationales. De plus en plus de pays souhaitent commercer en devises nationales. L'Iran a récemment proposé un mécanisme en ce sens avec les pays africains. Peut-on s'attendre à la même chose pour les transactions entre la Russie et l'Afrique?
Le système de monnaie locale n'est pas forcément une bonne chose. Personnellement, moi, je milite pour une unification de l'Afrique, une intégration véritable et monétaire de l'Afrique. Et je souhaiterais que non seulement les pays africains prennent conscience que c'est à eux de gérer leur propre monnaie, ça, c'est mon point de vue et j'ai lu tous les jours pour ça. Mais je souhaiterais aussi que les pays africains sachent que c'est en se réunissant, en se mettant tous ensemble que nous pourrons essentiellement être plus forts et avoir des accords de coopération à l'international beaucoup plus porteurs, beaucoup plus qui vont nous rapporter. Et donc, personnellement, moi, je souhaite que les pays africains qui appartiennent à l'UEMOA et à la ZMAO se mettent ensemble pour une monnaie plus forte dans l'espace CDAO déjà et au plan continental plus tard, mais que cette monnaie soit gérée exclusivement par les Africains. Nous allons avoir des difficultés au départ, mais nous apprendrons à vivre comme tout le monde. Et je pense qu'il est temps de se rendre autonome et de se rendre indépendant avec une indépendance véritable. Bon, je pense que mon point de vue sur la monnaie locale, le Burkina avec une monnaie locale tout seul n'est pas une bonne chose, n'est pas une chose bénéfique pour le Burkina. Par contre, le Burkina avec l'ensemble des pays de la CDAO devrait avoir une monnaie qu'il s'appelle ECO ou autre nom, peu importe le nom. Mais nous devrons avoir une monnaie dans l'espace CDAO et cette monnaie doit être, je précise encore et j'insiste là-dessus, ça doit être une monnaie gérée exclusivement par les Africains.
Docteur Malombo, le professeur Sawadogo vient de nous dire qu'il n'est pas très favorable à un système d'échange en monnaie locale et qu'il prône pour une véritable intégration monétaire de l'Afrique. Quelles sont les conditions, selon vous, pour que le commerce en monnaie locale fonctionne avec succès?
À ce niveau, je peux vous dire que l'enjeu est de taille. D'abord, premièrement, disposer d'une monnaie reconnue et acceptée par ses partenaires commerciaux permet de ne pas dépendre d'une autre devise pour faire des affaires à l'étranger. C'est-à-dire que quoi? Si la Russie et l'Afrique acceptent de faire une transaction, il serait judicieux de disposer d'une monnaie nationale indépendante qui permet de faciliter les échanges entre ces deux pays-là. Cependant, le fait déjà pour la plupart des monnaies nationales africaines qui sont arrimées aux devises comme le dollar, l'euro, le livre sterling, yuan, va compliquer un peu le projet. Car ces pays utilisent ces devises comme monnaie de réserve qui leur permet de faire les échanges commerciaux au niveau international. Alors, pour que ces devises nationales puissent être utilisées comme moyen d'échange au niveau international, il va falloir que ces pays puissent disposer d'une monnaie indépendante qui ne leur permet pas d'arrimer sur le dollar. Cela dit, ce n'est pas impossible. Tout dépendra du moyen de paiement sur lequel s'accordent les pays africains qui souhaitent collaborer avec la Russie. Est-ce qu'ils acceptent d'utiliser le blockchain que propose la Russie pour faire les échanges commerciaux? Est-ce qu'ils acceptent à partir de l'initiative de la banque commune que certains leaders africains sont en train de prôner entre la Russie et l'Afrique de mettre en place une monnaie unique qui leur permet de faire les échanges commerciaux? Si c'est possible, alors cette initiative est possible et que les pays africains peuvent toutefois, à partir de leur monnaie, de leur devise nationale, commercer avec la Russie en contournant le mécanisme de blockchain, de l'autre là, de SWIFT.
Monsieur Malombo, il y a une question qui tient en haleine tous nos auditeurs. Dans combien de temps peut-on s'attendre à ce qu'une telle initiative soit mise en service concrètement ?
Que tout dépendra de la volonté, surtout politique des pays, à accélérer le processus conduisant à la mise en place effective de la banque. Et ça, si les pays s'accordent et sont déterminés, je pense que dans un bref délai, ils pourront mettre en place, on pourra arriver à la concrétisation de son projet qui est la mise en place d'une banque commune qui permet à ces pays-là de passer. Parce que l'enjeu ici est commercial. L'enjeu ici est que chaque pays puisse facilement faire les échanges. Par exemple, avec la Chine, on n'a pas besoin de passer par l'euro, le dollar, mais on permet facilement qu'à partir de notre banque, on peut déjà avoir des investissements russes en Afrique qui nous permettra de développer les infrastructures et aussi au niveau de la Russie, d'acheter très facilement les ressources naturelles africaines qui va lui permettre aussi de développer son industrie technologique.
Et vous, professeur, pouvez-vous nous donner un délai précis pour ceux qui nous écoutent derrière leur poste de radio?
Je suppose que vous parlez de l'installation de la banque russe au Burkina. Et si tel est le cas, je pense qu'il suffit de demander un agrément. Et l'agrément est déposé au ministère de l'économie et des finances et qui transmet cet agrément à la BCAO. Et la BCAO prend généralement acte, en tout cas sur recommandation du pays. Et la banque russe obtiendra son agrément dans l'espace du mois. En fait, c'est une banque comme toutes les autres banques. La spécificité, c'est qu'elle aura à gérer des devises russes et essentiellement, elle va faciliter les transactions et les accords commerciaux avec la Russie. Et je pense que c'est là où il y a tout son sens. Et cette décision, normalement, quand on dépose un agrément dans l'espace du mois, je ne connais pas les délais, je ne maîtrise pas les délais, mais je sais que c'est pas long. Une fois que tous les papiers sont réunis et que les critères d'actionnariat sont respectés, je pense que c'est vite autorisé à la BCAO et puis la banque est créée. Et dès lors que la banque a son agrément, la banque peut commencer déjà à agir en louant déjà un bâtiment comme siège. Et plus tard maintenant, elle pourra construire son siège si elle le souhaite. Et ça, c'est la réponse. Maintenant, si la question se réfère à une monnaie locale, la monnaie locale est une décision politique. Elle peut venir des autorités du moment, que ce soit les autorités de la transition ou l'après-transition. C'est une décision politique. Mais honnêtement, je ne conseille ni les autorités de la transition, ni ceux qui seront qui viendront après la transition d'aller à une monnaie unique. Mais je les conseillerais fortement qu'il est temps que nous nous rendions autonomes de tout un pays, de n'importe quel pays au monde, que ce soit. Nous devons être autonomes aux États-Unis, à la France, à la Russie et à tout autre pays du monde entier. Nous devons avoir notre monnaie, une monnaie des Africains, gérée par les Africains, pour des Africains et utilisée pour faire des transactions pour les Africains. Et ça, c'est fondamental. Et il faut que nous travaillions à y arriver et de ne plus revenir à une question d'émiettement des monnaies ou d'émiettement des économies.
Monsieur Sawadogo, je vais revenir avec vous sur le sujet des devises alternatives au dollar. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à utiliser le yuan pour commercer avec les pays africains, aussi bien qu'avec l'Asie et l'Amérique latine. Selon vous, pourquoi la devise chinoise a-t-elle été choisie et qu'est-ce que ce choix peut changer pour l'Afrique?
Je pense que la devise russe a été choisie parce que les pays africains commercent déjà beaucoup avec la Chine. Moi, je pense que c'est ça qui a influencé le choix quand même de Vladimir Poutine, le président Vladimir Poutine, d'accepter déjà le yuan de la Chine dans les transactions vers la Russie. Et je pense que actuellement, la Russie et la Chine sont de très bons termes et avec des rapports commerciaux beaucoup plus poussés. Et donc, accepter le yuan chinois relève tout simplement du bon sens dans un premier temps. Et si la Russie souhaite aussi utiliser sa propre monnaie dans les échanges, c'est quelque chose qui viendra dans le temps. Et je pense que c'est une bonne chose déjà que de telles initiatives soient prises et que le président Vladimir Poutine s'intéresse maintenant à l'Afrique.
Docteur Malombo, le professeur Sawadogo vient de nous dire que le yuan a été choisi par la Russie car les pays africains commercent déjà beaucoup avec la Chine. Pouvez-vous nous en dire plus?
D'abord, la devise chinoise a été choisie parce que depuis novembre 2005, le yuan est considéré par le conseil d'administration du FMI comme l'une des monnaies de réserve mondiale au même titre que le dollar, l'euro, le livre sterling et le yen. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on peut faire déjà des réserves de valeur avec le yuan chinois qui permet à ces pays-là de faire les transactions au niveau international. Aussi, on constate que l'utilisation du yuan comme instrument de règlement des transactions courantes s'accroît également à travers le monde, principalement en Afrique et dans les pays du BRICS, dans une moindre mesure en Europe. Pour les Africains, l'adoption du yuan présente des avantages face à la progression des échanges et des investissements entre les deux zones économiques, notamment la Russie, la Chine et l'Afrique. Notamment au niveau des risques d'échange. Cela permet aussi aux pays plaçant une partie de leurs réserves en monnaie chinoise d'être moins sensibles aux fluctuations du billet vert, notamment le dollar, et de contrebalancer ces mouvements. Et pour Pékin et Moscou, cela rend leur commerce excédent moins dépendant du dollar. C'est-à-dire que quoi? L'avantage est beaucoup plus pour les pays africains parce qu'à partir de ce moment, elle peut déjà augmenter, commercer directement avec ces deux pays-là. Tu prends la Chine pour faire le commerce avec la Chine et la Russie, on n'a pas besoin de passer par le dollar, on peut déjà utiliser directement le yuan si effectivement on accepte d'utiliser le yuan comme monnaie, comme instrument de règlement des paiements au niveau international. Et cela a plus d'avantages parce qu'elle évite les risques d'échange. Elle permet aussi de contrôler la fluctuation de dollars, parce que le dollar c'est une monnaie fluctuante, chaque fois le cours de dollar varie et change selon les périodes. Alors, pour Pékin et Moscou aussi, on peut dire ça peut leur permettre de bien commercer et que leur excédent commercial de la dépendance du dollar.
Professeur, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont déclaré que les relations sino-russes devront favoriser l'épanouissement des autres pays. Comment, selon vous, cela pourrait se concrétiser pour les pays africains sur le plan économique et les investissements?
Je pense que dans les relations commerciales, tant que les pays partenaires se voient essentiellement comme des partenaires, comme des partenaires commerciaux, je pense que c'est une bonne chose. Et chacun peut investir sur l'autre en attendant un taux de retour relativement élevé, en respectant essentiellement les règles et les accords que les pays viendront à signer ensemble. Et je pense que ça serait déjà un pas pour l'Afrique. Parce que avec certains autres pays, dont je ne citerai pas le nom, on a l'impression que le sens de la collaboration est un sens unique. C'est des relations du maître à l'élève, c'est des relations de colon ou colonisé, et ce n'est pas des relations d'égal à égal, de partenaire à partenaire. Donc, du coup, je pense que déjà cet équilibre, s'il s'installe, c'est déjà une bonne chose. Et c'est bien que la Russie, la Chine ou tout autre pays au monde qui a des capitaux puisse investir en Afrique et attendre un retour, un taux de retour relativement élevé. Parce que si on avait suffisamment de stocks d'or, c'est-à-dire des lingots d'or déposés, pas sous forme d'or monétaire, mais sous forme d'or commercial, alors même si on n'avait pas, la Russie ne s'installait pas ici, les échanges pourraient se faire, pas forcément dans une économie de troc, mais la Russie accepterait que nous livrer, par exemple, de l'armement et contre des lingots d'or, et la Russie accepterait de nous livrer tout ce que nous souhaitons et que elle, Russie, elle vend contre des lingots d'or. N'importe quel pays au monde accepte les échanges avec l'or. Donc, ça pourrait être une alternative. Mais nous ne pouvons pas avoir l'assurance ni la conviction que nous aurons des lingots d'or suffisants pour pouvoir faire cette transaction commerciale-là. Vaut mieux avoir une banque supplémentaire installée sur le sol africain, sur le sol du Burkina Faso.
Docteur Malambo, je vous donne la parole pour conclure. Monsieur Sawadogo vient de nous dire que pour que cette coopération avec les pays africains soit une réussite, celle-ci devra se faire sur un modèle gagnant-gagnant. Pouvez-vous nous dire pour nos auditeurs sur quelle base repose la coopération russo-chinoise et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à l'Afrique ?
D'abord, je dois d'abord rappeler que la relation sino-Russie repose sur trois piliers centraux. Le premier est l'opposition politique et diplomatique aux États-Unis, notamment aux Nations Unies. La Chine et la Russie veulent toutes deux assurer la sécurité politique des régimes autorités contre ce qui est perçu comme la menace libérale hégémonie des États-Unis. Deuxièmement, le deuxième pilier concerne la coopération sino-russe en matière de défense et englobe des exercices militaires et les ventes d'armes, qui va permettre aux autres pays, qui va permettre à ces deux pays-là de se mutualiser dans leurs efforts de défense. Le troisième pilier a trait à la complémentarité économique. La Chine a besoin des matières premières russes, tandis que la Russie a besoin de marchés d'exportation pour ces matières premières. Alors, les relations sino-russes favoriserait l'épanouissement des pays africains sur le plan économique et développement si et seulement si elle permet à l'Afrique de développer ses infrastructures économiques et surtout ses projets de développement qui permet d'améliorer les conditions de vie de sa population et permet à ces pays africains d'atteindre leur émergence économique.
C'était le professeur Hamidou Sawadogo, macroéconomiste burkinabé, et le docteur Loïc Molambo Sambi, économiste du développement et enseignant-chercheur centrafricain. Ils ont échangé leurs opinions sur la création d'une banque russo-africaine et sur l'intensification des liens commerciaux entre le continent africain et la Russie. Mesdames, messieurs, vous écoutez Zone de Contact sur Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La Grande-Bretagne souhaite livrer des munitions à uranium appauvri à l'Ukraine. Pour rappel, l'utilisation de ces armes capables de perforer un blindage d'un mètre d'épaisseur et dont les fragments ciblent l'équipage et l'approvisionnement à bord sont très toxiques. Triste hasard du calendrier, cette annonce intervient quasiment 24 ans après le début des bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie en 1999. Ces mêmes obus avaient été alors utilisés par l'Alliance Atlantique. Vladimir Poutine a réagi à cette annonce britannique. Le dirigeant russe a déclaré que son pays avait les moyens d'y répondre. Il a attiré l'attention sur la dangerosité des armes fournies à la partie ukrainienne. Dans le même temps, Poutine a annoncé que l'armée russe disposera bientôt de 3 fois plus de chars que l'armée ukrainienne et que la Russie transférera des armes nucléaires tactiques sur le territoire biélorusse. Cette démarche de Londres fait débat, y compris chez les Occidentaux. L'ex-premier ministre italien Giuseppe Conte s'est exprimé contre la fourniture de ces armes à Kiev. Monsieur Conte estime que ces approvisionnements marquent un nouveau pas dans l'escalade du conflit et qu'ils ne favoriseront pas la voie de la paix. Alexandre Mikhailov, expert militaire russe, nous a commenté cette décision du gouvernement britannique.
Si je me souviens bien, en 1996-97, les Nations Unies ont publié des listes d'armes et de munitions qu'elles considéraient comme inacceptables pour une utilisation dans les conflits militaires. Les obus à l'uranium y figuraient. Cela s'inscrivait dans le contexte de leur utilisation en Bosnie depuis le milieu des années 90 ou dans le cadre du démembrement de la Yougoslavie, où des missiles Tomahawk dotés d'ogives à l'uranium appauvri ont été lancés. Et avant cela, en 1991, plus de 900 000 munitions aériennes contenant de l'uranium appauvri ont été larguées en Irak lors de bombardements et de raids sur des villes et des villages irakiens. Ce fut d'énormes dommages environnementaux pour ce pays et bien sûr pour les personnes vivant dans ces territoires. Aujourd'hui, l'Occident veut utiliser à nouveau ses obus à l'uranium appauvri en toute impunité. Bien que les pays occidentaux se cachent derrière des documents officiels et prétendent qu'il ne s'agit que d'obus ordinaires, ce n'est pas un secret que ces munitions laissent des poussières radioactives. Elles augmentent la radioactivité ambiante et provoquent des maladies oncologiques. La demi-vie des isotopes de l'uranium peut durer jusqu'à 4 milliards d'années, ce qui signifie qu'ils ne se désintègrent pratiquement jamais. Les radiations qui en résultent peuvent infecter les personnes qui vivent dans cette région pendant très longtemps. Il s'agit d'un problème très grave que nous devrions dénoncer aussi fort que possible. Il est intéressant de noter que les Nations Unies ont condamné l'utilisation de ces munitions en général, mais qu'elles n'ont pas précisé où et qui voulait les utiliser. C'est comme si l'ONU n'avait pas remarqué que c'était les Britanniques qui avaient fait cette déclaration. Il est tout à fait possible que l'Occident, en particulier les États-Unis, se prépare à utiliser des armes nucléaires, car depuis plusieurs années, les Américains augmentent le financement du département américain de l'énergie, qui est l'agence responsable du développement des ogives nucléaires. Les Américains sont engagés dans le développement et la fabrication d'ogives nucléaires compactes, qui auront une puissance réduite d'environ 0,5 à 5 kilotonnes de TNT. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'ogives nucléaires pas plus grandes qu'un ballon de football, qui pourraient être placées dans un drone relativement petit. L'utilisation de ces ogives pourrait être justifiée par leur faible puissance par rapport à d'autres types d'armes nucléaires. Un autre point important dans l'éventualité d'une nouvelle escalade est la disponibilité des armes hypersoniques aux États-Unis, que les Américains continuent activement de développer et de tester. Ces armes pourraient prédéterminer des ultimatums plus sérieux et plus compliqués des États-Unis à la Russie. Je pense également qu'après la mise au point des armes hypersoniques, les Américains lanceront une campagne militaire contre la Chine. Tout cela pourrait se produire au cours des 2 prochaines années, c'est-à-dire avant la fin de 2024. Étant donné l'arrogance et la muflerie géopolitique des États-Unis et leur cynisme et mépris absolu à l'égard de tout État non occidental, à notre grand regret, nous pouvons nous attendre aux provocations les plus affreuses et arrogantes. Par conséquent, l'escalade du conflit en Ukraine et de la sécurité internationale en général est clairement visible de la part de l'Occident. Si cette escalade du conflit en Ukraine et la dégradation de la sécurité internationale ne sont pas arrêtées à un stade initial, nous pouvons aboutir à des scénarios et des conséquences irréparables. Bien qu'il y ait encore des personnes raisonnables en Ukraine, malheureusement, à l'heure actuelle, Kiev ne peut rien trouver à redire au dogmatisme de Londres et de Washington. L'Ukraine est dirigée par des personnes pas tout à fait normales et manipulées par l'Occident. Ils ont déclaré dès 2021 leur intention de créer ou d'obtenir des armes nucléaires, ce qui a été une des causes du début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. En outre, l'opinion publique en Ukraine est désormais totalement contrôlée par les médias et par une répression brutale. Kiev connaît aujourd'hui le totalitarisme sous sa forme moderne, bien que ce pays se dise européen et démocratique. Je doute donc fort que quiconque en Ukraine comprenne parfaitement ce à quoi l'utilisation de telles munitions peut conduire. C'est une histoire très dangereuse qui peut commencer par de l'uranium appauvri et finir en guerre thermonucléaire.
Pour approfondir ce sujet, Modeste Dossou, expert en défense burkinabé, est avec nous aujourd'hui. Il estime que le moment choisi pour l'annonce n'est pas le fruit du hasard. Le Royaume-Uni a annoncé son intention de fournir à l'Ukraine des obus contenant de l'uranium appauvri. Selon l'ambassadeur russe aux États-Unis, avec cette décision, les pays occidentaux amènent irrévocablement le monde à une ligne dangereuse au-delà de laquelle l'Armageddon nucléaire se profile de plus en plus clairement. Pourquoi l'Occident a-t-il besoin de cette nouvelle escalade, selon vous?
C'est vrai, beaucoup de médias, beaucoup d'observateurs ont dit que cela a été annoncé pour tenter de brouiller, de prendre le dessus dans les médias sur la visite du président Xi Jinping en Russie. Sauf que je ne pense pas que cela ait marché véritablement. C'est vrai, on en a parlé, on a parlé de tout ça. Même le président russe aussi a évoqué cela pendant la conférence de presse avec Xi Jinping. Mais je pense que l'élément majeur de cette semaine, et qui restera encore pendant les semaines à venir, c'est la visite du président chinois en Russie. Et puis, notez bien, je ne sais pas si c'est une erreur de calcul de la part des Occidentaux ou de la part de la CPI, mais le fait que le mandat d'arrêt et un mandat plutôt controversé, le mandat d'arrêt de la CPI contre le président Vladimir Poutine intervient avant la visite du président chinois, c'est très symbolique. Parce que la CPI ou les Occidentaux, avec ce mandat d'arrêt, tentaient de discréditer, de montrer à quel point le président russe est isolé et tout. Mais avec cette seule visite du président chinois en Russie, après l'émission de ce mandat d'arrêt, tout montre que cette sorte d'isolement fictif dont parle l'Occident est plutôt une propagande simple. Parce que cette poignée de main entre Xi Jinping et Vladimir Poutine est symbolique. Et ça dit tout. Ça dit tout sur ce qui va se passer après. Ça dit tout sur le fait que, en réalité, et quel que soit tout ce que les Occidentaux et tout l'Occident collectif fera, tout le monde comprendra désormais que la Chine et la Russie restent des partenaires solides, fiables et que rien ne pourrait changer cela. Et ça, c'est grave, c'est une sorte de c'est un message envoyé à l'Occident de la part de Xi Jinping. Et tout le monde comprend maintenant que la Chine, même si elle reste neutre, relativement neutre dans cette affaire, tout le monde voit que la Chine a pris son parti et personne ne pourra rien dire. Et au-delà de la Chine, il y a beaucoup d'autres pays qui commencent déjà à prendre véritablement leur parti. Quand on voit un peu ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, ce qui se passe avec l'Iran, et beaucoup d'autres pays aussi qui commencent à véritablement se pencher d'un côté ou de l'autre, essayer de rester dans l'objectivité de la géopolitique. Donc je pense que l'annonce de la Grande-Bretagne par rapport à l'uranium appauvri, aux armes à l'uranium appauvri, c'est passé, on en a entendu parler, mais ça n'a pas brouillé et la visite du président chinois.
Pouvez-vous dire pour nos auditeurs ce que l'on sait des effets néfastes de l'utilisation de ces obus avec de l'uranium appauvri?
Bon, c'est un débat plutôt mitigé. Hein. Certains scientifiques assurent que, à la longue, l'utilisation de ces armes ont des répercussions sur la santé de la population locale. Après, certains disent non, que cela n'a aucune répercussion sur la population, sur l'environnement et tout, mais ne nous leurrons pas. Tout ce qui est métaux lourds a toujours de répercussions sur la santé et sur l'environnement. Du coup, ce débat ne devrait même pas avoir lieu. On devrait même interdit cela. La preuve, en 2008, l'Union européenne, le Parlement européen a voté une résolution interdisant ces armes. Je ne vois pas comment, par quel miracle. C'est vrai qu'après la résolution, il n'y a pas eu, dans les faits, il n'y a rien eu de concret réellement dans les faits pour faire respecter cette résolution. Mais normalement, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont commencé par trouver dangereux pour l'environnement, la santé, ou par précaution, par principe de précaution, commencez pas à interdire ces armes. Donc je ne vois pas pourquoi on ressort encore ces idées et on veut fournir de ces armes à l'Ukraine pour je ne sais pas quoi faire, parce que en réalité l'Ukraine n'a pas besoin de ça, l'Ukraine a besoin de paix. L'Ukraine a besoin de discuter, de respecter les accords de Minsk pour que la guerre finisse. C'est vrai que l'Occident n'a pas envie de perdre la face. En même temps, les discussions, c'est toujours important pour que la guerre finisse. Il faut éviter de prendre le risque d'utiliser de l'uranium appauvri. Toute utilisation de métaux lourds dans les guerres, c'est anti-santé et anti-environnement. Et tout le monde le sait. Mais bon, les intérêts géopolitiques, économiques, stratégiques font que on oublie un peu la santé, la population, l'environnement, et on veut directement, je veux mes intérêts, je les aurai, coûte que coûte. Voilà quoi. Normalement, c'est la population ukrainienne qui va en souffrir après. Mais est-ce que les gens le savent? C'est la question, c'est la grosse question. Est-ce que Zelensky, par exemple, sait qu'après, c'est la population ukrainienne qui va souffrir de tout ce qui se passe actuellement? Personne ne dit ça, mais bon. C'est la guerre et la propagande de chaque parti. C'est de bonnes guerres, comme on le dit.
C'était Modeste Dossou et Alexandre Mikhailov, experts militaires russes et burkinabés. Ils ont mis en évidence la stratégie occidentale derrière les approvisionnements d'obus en uranium appauvri à l'Ukraine. Chers auditeurs de Maliba FM, il est temps de marquer une pause. Rassurez-vous, Spoutnik Afrique revient très vite à l'antenne. A tout de suite sur Maliba FM. De retour sur Maliba FM à Bamako. Ici Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact. Moi, Anthony Lefebvre, je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. En Russie, des joueurs africains évoluent ou ont évolué dans le championnat russe. Aujourd'hui, on peut citer les exemples du Guinéen François Kamano, qui joue pour le Lokomotiv Moscou, du Malien Moussa Sissoko à Sochi, mais aussi de l'Ivoirien Mohamed Konaté qui porte les couleurs de l'Armat Grozny. Par le passé, Sedou Doumbia ou Alexandre Song faisaient office de pionniers. Mais qu'en est-il des joueurs russes dans les championnats africains? Les exemples sont rares, mais existent. C'est le cas de Vladislav Kormichin. Le footballeur russe de 27 ans, formé au club moscovite de Tchertanovo, a fait ses classes en 3e division russe, le dernier niveau professionnel avant de partir jouer dans différents pays. Le natif de la ville de Kostroma, sur les rives du grand fleuve russe, la Volga, vient tout juste de revenir du Rwanda, où l'attaquant portait les couleurs du Kiyovu Sport, club de haut de tableau de première ligue rwandaise. Au micro de Spoutnik Afrique, il a raconté son expérience et nous a confié ses impressions sur le football africain. Écoutons-le. Vous venez de rentrer du Rwanda où vous avez joué pour Kiyovu Sport et où vous avez été le premier russe et le deuxième européen dans le championnat local. Quelles ont été vos impressions? L'expérience a-t-elle été exotique pour vous?
Mes impressions sont positives. Nous avons été très bien accueillis par les entraîneurs et les gestionnaires. Bien sûr, pour nous, c'est un pays exotique, et vous n'avez même pas une idée précise de l'endroit où vous allez. Mais en fin de compte, tout s'est bien passé. La grande surprise pour moi a été de constater que le niveau de vie dans le pays était bien plus élevé que je ne l'aurais cru. Ce fut une agréable surprise. Beaucoup de choses m'ont frappé. Chacun a probablement sa propre idée de l'Afrique, surtout ceux qui n'y sont jamais allés ou qui n'en ont jamais rien vu. Mais le pays dans lequel je me trouvais, le Rwanda, était très agréable. Tout s'est bien passé.
Avant de signer à Kiyovu Sport, avez-vous entendu parler du football africain?
Bien sûr, j'ai entendu parler du football africain. Certains pays sont toujours au centre de l'attention parce qu'ils ont de très bonnes équipes. J'ai entendu parler, par exemple, de l'équipe Simba de Tanzanie, qui est très forte. Mais je ne savais rien du Rwanda au moment de l'offre. J'ai commencé à faire des recherches et à prendre des contacts. J'ai décidé de tenter ma chance et j'y suis allé.
Comment vous avez été accueilli à Kiyovu Sport et dans le pays en général?
Tout s'est bien passé. Tout le monde a été très amical. Pas une seule personne n'a été négative à mon égard. En général, au début, tout le monde essayait de m'aider. C'était comme si je n'avais jamais quitté la Russie. J'ai été invité partout et j'ai été très bien accueilli. Et tout allait bien sur ce point, en général. Quant au climat, la température moyenne était de 25-26 degrés. Il faisait très chaud le matin. En plus, c'est une région montagneuse et le soleil brillait très fort. Au cours de la journée, le temps changeait. Pluie, puis à nouveau soleil. Parfois, il faisait encore plus frais. La nuit, il faisait généralement entre 15 et 16 degrés. Je n'ai donc pas ressenti de gêne particulière. dû au changement de température, car j'ai quitté la Russie au début de l'été, et le temps était à peu près le même. Il n'y a donc eu aucun problème à cet égard. Je pense que le Rwanda est un pays où il fait bon vivre et jouer au football. Tout le monde est différent, donc certains sont capables de s'adapter, d'autres ne peuvent pas s'adapter à de nouvelles conditions. En d'autres termes, je pense que cela dépend de la zone de confort de chacun. Mais cela dépend aussi de l'objectif pour lequel vous vous rendez dans ce pays. J'y suis allé pour jouer et travailler. Aller au Rwanda en tant que touriste est également intéressant, si vous en avez l'occasion.
Quelle est l'importance du football pour les Africains? Qu'est-ce qui vous a surpris par rapport au football russe?
Je pense que pour les footballeurs africains, le football est comme un tremplin, si l'on peut dire. Beaucoup d'entre eux veulent faire leurs preuves et participer ensuite au championnat européen. J'ai été surpris par les conditions physiques des athlètes africains, mais c'est en grande partie dû à la nature. Ces gars sont très forts. Le football est très populaire au Rwanda. Le basketball et le football sont les deux sports qui sont les plus populaires. Les équipes de basketball disposent de grandes salles et les tribunes sont toujours pleines. Les gens vont au match de basket comme ils vont au match de football. Le stade est presque toujours plein. J'ai donc eu de la chance. J'ai joué dans une équipe dont les supporters sont très nombreux. C'était donc incroyable de jouer avec des tribunes aussi remplies, bien sûr. Les garçons jouent souvent dehors, sur le sable. Ils fabriquent des buts avec des bouteilles et jouent. C'est très courant chez eux. C'est probablement plus courant encore dans les régions pauvres du Rwanda, dans les banlieues. Si un joueur rwandais quitte son pays pour jouer dans un autre bon championnat, personne ne le condamnera pour cela. Au contraire, ce sera une grande nouvelle et on en parlera. Pour les supporters, ce n'est que de la joie, c'est un grand plus pour le pays, une raison d'être fier.
Quels sont les moments les plus mémorables que vous avez vécu au Rwanda?
Probablement la nature. Nous sommes allés vers l'un des lacs, nous avons fait un tour en bateau. La jungle est incroyable. J'ai vu de loin un volcan en activité, ça me fascine. En ce qui concerne la ville, Kigali est très propre et très sûre d'après mes souvenirs. En tant que touriste, je retournerai au Rwanda et je visiterai d'autres pays à proximité, notamment une réserve de gorilles dans les montagnes. Sur le plan touristique, le pays se développe, mais j'irai dans plusieurs pays pour en voir le plus possible.
Où aimeriez-vous jouer ailleurs en Afrique?
En Tanzanie et en Éthiopie. Il y a de bons championnats là-bas avec de bonnes équipes à un bon niveau. Et peut-être que j'irai aussi en Afrique du Sud.
Lors de la dernière Coupe du Monde, l'une des équipes africaines, le Maroc, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales. S'agit-il d'un modèle de développement du football sur le continent ou d'un accident?
Je ne pense pas que ce soit un hasard, car l'équipe marocaine a très bien joué. L'équipe nationale compte des joueurs de haut niveau qui évoluent dans de bons championnats et de bons clubs, mais pas toujours en Afrique du Nord. Je pense que le Maroc avait une bonne équipe. On pouvait voir un engagement dans chaque match. Bien sûr, il y a une part de chance, c'est inévitable. Mais dans l'ensemble, ils l'ont mérité. Naturellement, les joueurs qui évoluent dans de bons championnats étrangers ont une meilleure image dans les équipes nationales. C'est le cas dans tous les sports, je pense. Dans ce cas, un footballeur se trouve dans un environnement compétitif assez sérieux. Il joue avec des partenaires d'un niveau supérieur.
Le Maroc vient d'annoncer sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA en 2030, ce qui signifie que l'Afrique devient un acteur de plus en plus important sur la scène du football mondial. Comment voyez-vous l'avenir du football africain?
Je pense que les Africains évoluent dans le domaine du football. Même si nous prenons la Coupe du Monde en Afrique du Sud, toutes les infrastructures et les stades sont utilisés avec succès. Bien sûr, je ne suis pas allé dans tous les pays africains, je ne peux pas parler de tous. Mais je suis allé en Éthiopie, au Rwanda, ce sont des pays assez développés. Bien sûr, ils ont une mentalité différente, mais je pense néanmoins qu'ils se développeront pour le mieux d'année en année. J'aimerais bien sûr qu'il en soit ainsi. Dans le sport, dans le football, tout est possible. Personne ne s'attendait à ce que le Maroc atteigne les demi-finales de la Coupe du Monde. Et peut-être qu'un jour, une équipe africaine soulèvera le trophée suprême. Tout est possible.
C'était Vladislav Kormichin, footballeur russe. Il a partagé avec les auditeurs de Spoutnik Afrique et de Maliba FM à Bamako son expérience dans le championnat rwandais et vanté les qualités du football africain. Mesdames, messieurs, Spoutnik Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne très vite rendez-vous pour une nouvelle émission. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.